Seigneur, je suis encore plus touché ce matin. Quand on voit notre communion, le parcours des uns, le parcours des autres, il était question de prière à genoux, de Saint-Esprit. Dans notre parcours, tu nous fais des clins d'œil, des visites pour nous interpeller et pour nous montrer la grâce que tu nous accordes. Pardon, Seigneur, si j'ai minimisé cette grâce. Pardon si je ne me rends pas compte de ce cadeau que tu me fais, tellement il est grand. Tu le fais à toute l'humanité, tu l'offres, chacun à sa mesure. Moi, à titre personnel, tu ne m'as pas donné cette capacité de souffrir. Tu m'as préservé. Et c'est une grâce que tu m'accordes, je t'en remercie. Merci pour cette famille dans laquelle nous sommes, avec Viviane et les enfants. C'est notre famille spirituelle dans laquelle tu nous mets. Et nous voulons nous réjouir, vivre cette communion jusqu'au jour que tu nous appelles. Je remets entre tes mains ce message qui m'a travaillé très longtemps et je ne peux aborder avec une légèreté tellement il concerne un péché impardonnable. Aide-moi à trouver les mots. Aide-moi à ce que mes frères et sœurs reçoivent ce qui vient de toi et rejettent mes erreurs. Que ta volonté seule se fasse. En ton sein, en Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Nous avançons tout doucement dans l'évangile selon Marc. Nos frères et sœurs, ils ont la traduction déjà du texte. You have translated. Okay. Ils ont la traduction du texte que j'ai fourni hier à leur demande. Ça veut dire en fait, ça, les personnes qui sont devant maintenant doivent être plus disciplinées. Je n'ai jamais fait un texte aussi structuré qu'hier. Alors je leur ai envoyé, donc ils traduisent en perse, ils traduisent en anglais, en espagnol. Ils ont traduit en espagnol, vous savez pourquoi? Ils m'ont dit c'est pour Emilia, si elle veut. Donc le texte en espagnol, je l'ai pour toi, Emilia, si tu veux. Voilà, il s'est fait par Raman. Radman.
Tu l'as là maintenant, quoi?
Hein?
Tu l'as là maintenant?
Non, mais il faut que je... Laissez-moi me discipliner petit à petit, il faut que je le fournisse. Tout... La prochaine fois, je te le donne. La prochaine fois, je te le donne directement. Ou je te l'envoie. Plutôt. Comme je dis, nous avançons dans l'exploration et l'étude de l'évangile de Marc et nous sommes à présent dans le chapitre 3, versets 20 à 30. Je vais le lire. Et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé par Belzébul. Vous vous rendez compte de la condamnation? Ou de Belzébul? C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Donc, je ne vais pas... Oui. Donc, je ne vais pas tout évoquer dans ce passage. Il est tellement riche, tellement... Mais je vais juste évoquer des éléments avec le peu de temps que j'ai, en espérant que le Seigneur parle au cœur pour que vous ne gardiez que ce qui vient de lui. C'est un message, c'est un passage crucial. On ne peut pas le prendre à la légère, en passant comme ça. C'est un sujet très sensible, un sujet qu'il faut aborder avec sagesse, discernement. Ce sujet, préoccupe beaucoup de chrétiens, si ce n'est tous les chrétiens. Bien entendu, je parle des chrétiens sincères et responsables. Qui ne s'est jamais posé cette question-là? Un sujet que chaque chrétien évoque au moins une fois dans sa vie. Si ce n'est plusieurs fois dans sa vie. Vous avez bien compris que le péché impardonnable, ce n'est pas un sujet quelconque. Alors pour préparer le message ce matin, j'ai effectué des recherches documentaires. J'ai fait des recherches documentaires, j'ai lu, j'ai entendu des messages, j'ai même lu une publication scientifique de théologiens pour savoir de quoi il s'agit, parce que je peux être dans l'erreur, je ne sais pas. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai prié pour le message d'aujourd'hui que j'ai évoqué avec Toby. Et je me suis confié à Jean-Louis et nous avons prié ensemble, je me rappelle, ensemble vendredi. Merci Jean-Louis. Le pardon des péchés et l'abandon des péchés, j'ai ajouté. Avant d'aborder le péché impardonnable, il est question, Dieu pardonne tous les péchés. C'est ce qui est écrit. Commençons d'abord par un verset qui semble faire consensus. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Cette phrase, si elle n'est pas traitée correctement, peut faire des dégâts. Que veut dire « tous les péchés seront pardonnés » ? Je crois que cette phrase est tellement banalisée que les chrétiens ne se sentent plus affectés par leurs péchés. S'ils deviennent des robots, je commets un péché, je demande pardon. Avons-nous une tristesse intérieure quand on pêche ? Le pardon est devenu quelque chose d'automatique, banal. Je vais me confesser. Je donne un exemple simple pour comprendre. En tant que chrétien, je sais que Dieu pardonne. Nous le savons, on est chrétien et encore heureux que nous le savons. Je sais par exemple que mentir est un péché. Nous savons que mentir est un péché. Donc, je conclus qu'à chaque fois que je mens, je peux bénéficier du pardon divin. Puisque c'est écrit que je suis pardonné. Donc, à chaque fois que je mens, je demande pardon. Je peux ainsi demander et bénéficier de ce pardon à chaque fois que je mens. Ça veut dire quoi? Je continue à mentir. Raisonner ainsi est une grave erreur. Pourquoi? Le pardon divin est accordé sur une confession issue d'une conviction profonde qui nous convainc que nous avons péché. Ce péché génère une tristesse intérieure telle que je ne peux que le confesser. La phrase suivante, pour m'en libérer. C'est tout simplement la repentance. Cette conviction nous met sur le chemin de la transformation de notre comportement. Cette transformation est le fruit, ce que la Bible appelle fruit de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et cherche, et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Changez donc d'attitude. Donc un péché pardonné est un péché abandonné. Si je mentis, je confesse mon péché, je demande pardon et j'arrête de mentir. Si je suis médisant, je confesse mon péché et j'arrête de dire du mal sur les autres. Si j'ai volé, je confesse mon péché et j'arrête de voler. Si je fréquentais des lieux de débauche, je confesse mon péché et j'arrête de fréquenter ces lieux de débauche. Si je n'ai pas déclaré tous mes revenus aux impôts, je confesse mon péché, je remédie à la situation en déclarant ce que je n'ai pas déclaré. Et je ne recommence plus. Ça, c'est le fruit ça, c'est le pardon et les fruits de la repentance. La Bible nous dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes. Si je confesse un péché plusieurs fois sans l'abandonner, c'est que je n'ai rien compris à la repentance et je ne porte pas de fruit de la repentance. Si je demande plusieurs fois pardon pour ma médisance, pour le vol que j'ai commis ou pour mon mensonge, c'est que ma repentance ne porte pas de fruit puisque je continue à pratiquer le péché. C'est l'évidence que je dis là, il n'y a rien de nouveau, c'est simple. Le Seigneur, en s'adressant à la femme adultère, lui a dit qu'il ne la condamne pas. Elle est pardonnée, mais il lui dit, ma fille, va et ne pêche plus. Maintenant, je vais soulever un élément. Maintenant, il faut savoir que la nature humaine est très subtile. Elle va justifier l'injustifiable. Par exemple, elle va me faire dire que je suis libre de dire ce que je pense. C'est une qualité. Penser ainsi est une erreur pour moi. Je ne dis pas ce que je pense du moment que mes paroles n'apportent pas la paix autour de moi. Si mes paroles, mes actions heurtent mon frère et ma sœur, il faut s'en abstenir. Le Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Ou encore dans sa première lettre aux Corinthiens, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Maintenant, il ne faut pas confondre le pardon que je viens de vous parler et le pardon accompagné d'une délivrance. Il y a un pardon sur des péchés où Dieu nous donne la possibilité d'abandonner. Je peux abandonner le mensonge. Je peux abandonner le vol. Mais il y a des péchés, des fois, nous avons besoin de délivrance. Je prends l'exemple d'un alcoolique. Il sait, il est dépendant. Il sait que l'ivrognerie est un péché. Il le confesse avec une sincérité du cœur. Cette confession a besoin de délivrance que le Seigneur peut lui accorder par l'accompagnement du Saint-Esprit, ou quand c'est possible, par un accompagnement médical. Je peux dire ça aussi du drogué. C'est pas parce qu'il sait que ce drogué est mauvais, il le confesse, qu'il peut l'abandonner. Il est dans l'incapacité parce qu'il est dépendant. Donc il a besoin de délivrance. Alors mes frères et sœurs, ne me dites pas que nous avons besoin d'être délivrés de la médisance, ou de l'envie de voler, ou de la débauche. Mélangeons pas tout. Ça, c'est notre capacité de les abandonner. Croire cela, c'est faire de notre liberté une occasion de continuer à pécher. En disant cela, je m'adresse à moi le premier. C'est pour ça, en étudiant ce texte sur le pardon, il y a beaucoup de choses, nos yeux s'ouvrent. Je reviens maintenant à notre sujet. Le péché impardonnable. On dit tout et n'importe quoi à ce sujet, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu. On est perdu. J'étais perdu. Certains minimisent le sujet en disant que ce n'est pas possible qu'un chrétien blasphème contre le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Et donc, ce sujet ne peut concerner que les incroyants. C'est ce que tu disais, Jean-Louis. Vous voyez ? C'est ce que je pensais aussi. D'autres font ce sujet une occasion d'inquiétude et de questionnement permanent au point de créer une certaine culpabilité chez le chrétien qui risque d'altérer sa marche avec le Seigneur. Alors nous allons prendre au sérieux ce sujet et nous allons questionner la parole en sachant que la parole explique la parole. Je ne vais pas évoquer tous les passages évoqués dans la Bible, mais on sait que ce sujet-là a été traité dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle. En m'appuyant sur Marc d'abord, sur notre passage selon Marc. Dans l'Ancienne Alliance, voilà un texte qui fait le cœur du judaïsme. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Quiconque maudira son nom portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. » sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Vous voyez la loi ? Là, c'est une condamnation humaine, on va dire. Jésus l'a complété par une condamnation éternelle. C'est un passage que les religieux de l'époque de Jésus ont utilisé pour condamner le Seigneur, comme dans Actes 6, 11, ils ont utilisé ce passage pour condamner Jésus, parce qu'ils disaient qu'il blasphémait contre la loi de Moïse et contre Dieu. Et ils voulaient l'emmener à la mort. Alors reprenons maintenant notre passage, que nous l'avons lu tout à l'heure. Et avant d'aborder ce péché impardonnable, il y a quelque chose que je trouve très important qui s'est passé juste avant. Les parents sont venus chercher Jésus. Il était dans la foule. Et les parents, ils ont dit, ah, il a perdu la tête. Hein? On l'a lu dans le passage. Les parents, attends, ce que disent les parents, dans le langage parent, ça peut être ses frères, sa mère, ses sœurs, ou les parents de la mère. Ouais, c'est pas spécialement les parents-parents, voilà, c'est la famille, en fait. Ils sont venus le chercher. D'ailleurs, si on lit juste le verset suivant, le verset 31, on lit, « Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. » Oui, il n'y avait pas que sa mère. C'est ça, les parents, c'est la famille. La famille de Jésus disait qu'il a perdu la raison. C'est pas grave, ça. C'est ce qu'il a dit. Si vous blasphémez contre la personne, etc., c'est pas grave. Mais on a deux situations. Il y a les parents qui viennent, ils disent, il a perdu la raison. Mais par contre, les scribes, ils ont dit, c'est le diable. Ils sont en train de nous dire que les parents, c'est pas grave. Enfin, bien que c'est condamnable, mais c'est pas grave. Ça mène pas à la perdition, ce qu'ils ont dit. Ça me donne une espérance pour ma propre religion d'origine, l'islam. Ça m'a réjoui le cœur. Vous savez pourquoi ? L'islam dit, on ne croit pas en Jésus comme fils de Dieu. Eh bien, cette position ne les condamne pas éternellement. Parce qu'ils ne disent pas que Jésus est rempli par l'esprit de Satan. Oui, vous comprenez ce que je veux dire ? Ça donne de l'espoir, de l'espérance. C'est-à-dire quand on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, ou même ceux qui ne croient pas en Jésus, mais on dit certes, on dit, ce n'est pas grave. Parce que c'est toujours pardonnable le jour venu. Mais quand on commence à blasphémer contre le Saint-Esprit et accordé à Jésus un pouvoir qui vient de diable alors que c'est Dieu, là, c'est blasphémer. La famille de Jésus disait qu'il a perdu la raison. Il n'est pas normal. C'est très douloureux pour Jésus, pour sa famille. Et ça m'a fait plaisir, à titre personnel, le témoignage qu'on a eu avec nos frères et sœurs iraniens. Eh bien, si nos familles trouvent qu'on est fou, qu'on est cinglé, qu'on a perdu la raison, Jésus est passé le premier par là. Il est en train de nous le dire. C'est très douloureux pour vous aussi, pour votre famille, de qui vous êtes séparés. C'est très douloureux pour moi et pour ma famille, que ça fait des années que je n'ai pas vu. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Jésus est passé par là. C'est une souffrance que je porte en moi tellement, c'est un déchirement, une coupure avec ma famille et mon milieu. À travers cette situation décrite par Marc, le Seigneur nous montre le premier obstacle humain qui se dresse devant nous dans notre marche avec lui. Ça fait partie de notre cheminement. Il y en a qui acceptent de payer la séparation dans la douleur, c'est le cas de nos frères et sœurs, et d'autres qui n'y arrivent pas. C'est un prix à payer. C'est une expérience que le Seigneur a vécue concrètement, comme nous, avant nous. Il dira plus tard, le Seigneur, au sujet de ceux qui veulent le suivre, dans Matthieu 10, 35, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Il faut l'accepter. Et quand je dis mettre la division, par le fait, il y aura une division, de toute façon, dans les familles. Alors, si nous sommes rejetés par nos familles, nos amis, ou notre environnement, d'une manière générale, consolons-nous, car notre Sauveur est lui-même passé par cette situation. Il est passé par cette situation et il a tenu. Il a accepté de payer le prix. Ce prix est allé jusqu'à la croix, le don suprême de sa propre vie. De sa propre famille, qui le considérait comme fou, hors de lui, pour le moment, parce qu'on sait très bien par la suite, quand l'Esprit Saint est venu, ils sont devenus des disciples. Vous voyez, ça nous donne de l'espoir aussi. Et qui essaie de le ramener à la vie normale, ordinaire, avec une certaine sécurité et tranquillité. Voilà ce qu'a dit Jésus à la foule et à ses disciples par rapport à sa famille. Où est ma mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. J'ai envie de dire ce que je vis. Ma famille est rejetée, mais vous êtes ma famille. Nos frères et sœurs iraniens, Bimba, Jandari, ce que c'est, ils n'ont pas avec leur milieu. Mais nous sommes leur famille. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité? C'est ce qu'il est en train de dire, Jésus. Nous sommes une famille éternelle, une famille spirituelle, nous durons pour l'éternité. Et gare à nous si nous ne répondons pas à cette injonction que le Seigneur nous a laissée. C'est leur famille, leur maison. Alors, nous apprenons par là une leçon qui se répète souvent autour de nous. Lorsque les gens du monde voient qu'une personne se consacre entièrement au Seigneur pour vivre pour lui, ils le traitent de fou. Considèrent qu'il est hors de sens ou qu'il est un fanatique. Ah, c'est le mot à la mode, ça. Fanatique. Quand les chrétiens se consacrent aux choses de Dieu, montrent une passion pour adorer Dieu et le servir, cela est considéré comme du fanatisme, traditionnalisme. Il faut qu'on se modernise, il faut qu'on s'ouvre. C'est une situation qui peut profiter à notre faiblesse naturelle. Et si nous ne sommes pas préparés par le Seigneur, on peut ne pas avoir le courage de payer le prix. Et on peut aller jusqu'à renier sa foi. Et à l'extrême, ce reniement peut être poussé jusqu'au blasphème. L'évangéliste Marc nous dit que ces scribes, les scribes sont venus le chercher, venus le voir, étaient descendus de Jérusalem. Nous supposons que les scribes de la province de Galilée avaient demandé de l'aide au docteur de la loi de Jérusalem pour contrer l'influence du Seigneur Jésus dans cette région. Ce ne sont pas n'importe qui ces gens, envoyés par les religieux de Jérusalem. Ce sont des guides du peuple hébreu, Ce sont des religieux qui exercent leur ministère dans le temple. Ils connaissent les Écritures, ils connaissent la loi, ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent que Dieu enverra le Christ comme sauveur du peuple. Ils peuvent discerner ce qui est conforme à la parole de Dieu, ce qui ne l'est pas. Ces scribes et ces religieux étaient demandeurs de miracles même. Ils demandaient des miracles. Et malgré les prodiges et les miracles opérés par le Seigneur, ils l'ont quand même rejeté. Au point que le Seigneur déclare dans Matthieu 11, 21, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Ils refusaient la repentance. Aucun chef religieux et aucun des représentants officiels du Sanhédrin ne remet en doute les miracles de Jésus. Ni sans pouvoir pour chasser les démons. C'était impossible de nier une chose d'une telle évidence. Mais le fait qu'ils ont vu ces miracles et qu'ils les ont reconnus comme étant véritables ne veut pas dire qu'ils ont reconnu Jésus comme le Messie. Il semble que les scribes venaient déjà avec leur réponse prête. Avant même d'écouter le Seigneur, ils avaient déjà la réponse. Ils sont venus avec de Jérusalem, de la part des religieux de Jérusalem. Ils n'ont donc pas attendu. Ils dirent, c'est par le prince des démons que Jésus chasse les démons. Très grave. Ils ne voulaient pas se soumettre à Jésus. Ils ont donc choisi comme stratégie de discréditer Jésus. Et ils l'ont accusé d'être possédé par des démons et de faire des miracles en collaboration avec Satan lui-même. Alors, mes frères et sœurs, ou les jeunes, si vous flirtez avec des milieux où il y a le satanisme, ne vous brûlez pas. Éloignez-vous de ce milieu-là. Ne rigolez même pas avec ces gens-là. Nous ne pouvons pas nous surprendre de voir comment l'esprit religieux, conduit par ses propres intérêts, a des décisions aveugles et méchantes. Cette réaction coïncide avec le diagnostic que Jésus lui-même a fait dans Jean 3, 19, 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Les scribes avaient une grande responsabilité. Ils savaient avant tout que le mystère de Jésus était une démonstration directe et claire du Saint-Esprit. Même Nicodème, un chef des Juifs a dit dans Jean 3, 2, « Rabbi, ils reconnaissent, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais eux, ayant devant eux toute l'évidence, ils ont émis un jugement condamnatoire contre Jésus. Ils l'ont traité de la manière la plus horrible possible, disant qu'il était possédé et qu'il était un allié de Belzébul. Cette décision, une fois prise, mes frères et sœurs, volontairement et délibérément, serait irréversible. Il n'accorderait plus jamais de repentance. Mais pourquoi était-elle aussi grave, cette condamnation? Pourquoi Jésus a-t-il dit que ce péché n'obtiendrait jamais de pardon, contrairement aux autres? Même si les autres, il ne faut pas les minimiser. Il y a une attitude de cœur, un changement de cœur. Remarquons comment Jésus appelle ce péché. Blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi appelle-t-il ce péché ainsi? Parce que les scribes résistaient au Saint-Esprit. Étienne, le premier martyr, avant d'être lapidé, pour rendre témoignage de Jésus, leur dit la même chose. Homme au cou raide, il s'adresse aux juifs de l'époque. Hein. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Que nous dit la Bible sur le Saint-Esprit? Pourquoi telle importance, le Saint-Esprit? Dans Jean 16, 8, 11, voilà ce que nous lisons. Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le rôle principal du Saint-Esprit, c'est qu'il vient nous convaincre du péché. Alors, si les scribes, les juifs, tout ça, s'opposaient à l'œuvre du Saint-Esprit de cette manière, qu'est-ce que Dieu pouvait encore faire pour les convaincre de leur péché? En fait, il n'y a plus de repentance possible. On sait que notre salut, c'est la repentance. Quand on se repent, on a le pardon. Mais eux, comme ils luttent contre le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit convainc du péché, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus convaincus du péché, donc il n'y a pas de repentance. Donc il n'y a pas de salut. C'est définitif. La question que nous sommes en train de considérer est vraiment sérieuse. Il y a un état d'endurcissement que seul Dieu peut expliquer, qui empêche à l'âme de se repentir. Nous nous souvenons tous du cas de Pharaon. Nous connaissons tous l'exemple, Pharaon, qui s'endurcissait devant chaque preuve de la puissance de Dieu. Malgré les miracles, malgré que Dieu faisait à travers Moïse, le cœur de Pharaon s'endurcissait. Jusqu'au moment où Dieu lui-même avait considéré qu'il avait dépassé la limite. Et il n'y avait plus de possibilité de retour pour lui. En résumé, le blasphème contre l'Esprit Saint est d'abord un état du cœur, résultant d'une opposition volontaire et persistante à la reconnaissance de la vérité qui se présente à nous, malgré les preuves évidentes et le témoignage vivant, pratique et concret du Seigneur. Vous allez me dire, ouf, ça ne me concerne pas. On verra tout à l'heure. C'est le cas des religieux de l'époque du Seigneur Jésus-Christ qui connaissaient la parole de Dieu et qui ont vu Jésus à l'œuvre, un refus conscient et délibéré d'accepter la grâce divine au point d'attribuer à Satan une action de l'Esprit de Dieu afin de ne pas être obligé de se repentir. Il n'y a plus de capacité de se repentir chez eux. La particularité de ce péché, c'est qu'ils refusent, ces gens refusent la repentance. Et à force de refuser de se repentir, on en devient incapable. Faire ainsi, c'est consentir à se donner à Satan et entrer dans un combat spirituel contre la grâce que Dieu nous offre. Il n'y a pas de péché plus grave que celui-là. Alors j'ai consulté des écrits, et qu'est-ce qu'il dit Calvin par rapport à ça? Voilà ce qu'il a écrit Calvin. Ceux qui sont convaincus dans leur conscience que la doctrine qu'ils combattent vient de Dieu et n'en continuent pas moins de lui résister et à attacher de la détruire, blasphèment contre l'Esprit Saint. Quelques remarques quand même, quelques considérations sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Pécher contre le Saint-Esprit n'est pas une action ou une affirmation isolée, mais une attitude de rébellion contre Dieu qui refuse et rejette son pouvoir de salut. Étant donné que c'est une attitude du cœur, Dieu connaît aucun homme ne doit s'aventurer à faire des jugements sur les autres. Il nous demande de ne pas porter un jugement sur qui que ce soit pour dire « mon frère, ma sœur a blasphémé contre le Saint-Esprit ». Lui seul le sait. Ce péché de blasphème est aussi connu comme le péché de mort, péché qui mène à la mort dans les évangiles. Nous trouvons son équivalence, son analogie dans l'Ancien Testament, où Dieu parle du péché comme avec mépris. Il n'y avait pas de sacrifice qu'on pouvait offrir pour l'expiation de ce péché. Par conséquent, celui qui commettrait ce péché sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel. Ce verset a préoccupé beaucoup de chrétiens qui ont peur d'avoir commis ce péché impardonnable. Mais quand une personne est réellement préoccupée, et ça c'est très intéressant, je me suis rendu compte, quand une personne est préoccupée par cette question, elle montre par son comportement qu'elle n'a pas commis ce péché. Alors si vous posez des questions, mes frères et sœurs, c'est une bonne chose, c'est que vous n'avez pas commis. Parce que si on ne se pose plus la question et on dit une évidence, là il faut s'inquiéter. Ceci dit, nous devons avoir du discernement. Nous écoutons parfois des gens qui disent que nous ne devons jamais remettre en question un ministère. Par exemple, celui des guérisons, qui s'accomplit par le pouvoir de l'Esprit, de peur d'être en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Souvent, on me l'a rétorqué, celle-là. Attention, tu es en train de peut-être blasphémer contre le Saint-Esprit devant ces guérisons, devant ce don de miracle. Face à ce genre de chantage spirituel, il n'y a que la parole de Dieu comme réponse. Nous devons nous rappeler la parole de la première épître de Jean. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Donc ne mélangeons pas tout. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut avoir du discernement. Notons que le Seigneur Jésus parle de la condamnation éternelle et de la possibilité qu'un homme soit éternellement dans l'enfer. C'est une terrible vérité. Et s'il l'a évoqué, c'est que ça existe. Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant elle, ni nous tromper en pensant qu'il est impossible qu'un Dieu d'amour puisse permettre qu'une personne aille en enfer. En conclusion, je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit des scribes. Tout ce qu'on est en train de dire, des religieux. Donc ce n'étaient pas des chrétiens. Donc c'est normal, ils peuvent blasphémer. Et nous? Eh bien, il faut savoir que ce passage sur le blasphème du Saint-Esprit, il est évoqué dans trois passages, clairement, dans les trois évangiles. Marc, Matthieu et Luc. Plus interprété un peu dans certains passages du Nouveau Testament. Alors j'ai repris celui de Luc. Et on va le lire. Et c'est ça qui m'a interpellé, je dis, oula. Je vous le dis, quiconque me confessera, c'est-à-dire se déclarera publiquement devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes, sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Il est en train de s'adresser, là, le Seigneur, et là, c'est très important, et ça m'a interpellé, il s'adresse à des chrétiens persécutés. Il est en train de leur dire, on va vous arrêter, on va vous persécuter. Mais si on vous oblige à blasphémer contre moi et vous blasphémez, voilà ce que vous risquez. Il s'adresse aux religieux. C'est un passage intriguant, interpellant et créant en moi beaucoup de questionnements. On n'est pas en présence de scribes ou de pharisiens ou de religieux cette fois-ci. Il s'agit bien des chrétiens. En situation de persécution, le Seigneur nous demande de ne pas avoir honte de lui. C'est lui qui me confessera. Vous vous rendez compte? Dans la souffrance, le rejet et la persécution, le Seigneur nous demande de le confesser, de parler de lui publiquement, c'est-à-dire de l'annoncer et le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur. Faute de quoi? Il nous reniera devant les anges et devant le Père. Le moment venu. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous le dire, mais je me le dis à moi. Je ne sais pas si on mesure le poids de ce passage. Le Seigneur nous demande de le confesser dans l'épreuve, dans l'adversité, dans la persécution. Alors, que dirons-nous si nous nous abstenons de le confesser dans un environnement qui ne nous est pas hostile? Un environnement, apparemment, on n'est pas persécuté. Quelle excuse puis-je mettre en avant pour justifier ma réticence et mon refus de confesser le Seigneur comme étant mon Seigneur et Sauveur? Plus préoccupant encore, le Seigneur ajoute que dans la persécution, nous ne devons pas blasphémer contre le Saint-Esprit, car ce même Saint-Esprit nous enseignera ce qu'il faudra dire quand on est éprouvé. Mes frères et sœurs, le paysage chrétien occidental actuel, j'ai l'impression, c'est ma position, a enlevé le sel qui assaisonne la vie chrétienne. Je suis persuadé, je peux me tromper, je suis persuadé, malheureusement, que le jour où une persécution survient ici en France, l'Église occidentale choisira peut-être de renier le Seigneur, voire aller jusqu'au blasphème pour sauver sa vie. Nous avons honte de confesser notre Seigneur Jésus-Christ chez soi, dans son travail, dans la société en général. Nous trouvons toutes les justifications pour appuyer et justifier notre attitude. Comment pourrons-nous le faire quand la situation deviendra réellement difficile? Que le Seigneur nous garde et nous protège de tels agissements. Le Seigneur nous envoie des fois des messages par des témoignages des gens qui étaient emprisonnés en Afrique, des gens qui étaient battus sans sauver. Ils n'ont pas renié le Seigneur. Est-ce que nous, si on est dans la même situation, nous confesserons le Seigneur jusqu'aux portes de la mort, nous ne blasphémerons pas contre le Saint-Esprit? La vie chrétienne, mes frères et sœurs, est un chemin long et exigeant. C'est une marche dans le dépouillement avec des sacrifices permanents qui nous mènent vers une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée, c'est une vie dans l'esprit. C'est la piété dans laquelle nous sommes. Il nous faut qu'on soit intransigeant, même sur les détails. La vie sanctifiée n'est pas une option chrétienne, mais un aboutissement dans une marche exigeante avec le Seigneur. N'oublions pas que dans la Bible, nous lisons, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. Cherchons ensemble, individuellement et collectivement, le Seigneur, avec sérieux. Pas de plaisanterie, sérieux, à genoux, tous les jours. Parce que la vie chrétienne, c'est sérieux, il est question d'éternité, il est question de vie. Cherchons ensemble et individuellement le Seigneur pour qu'il nous forme et nous amène à une vie chrétienne mature, où il règne en nous quotidiennement, qu'il nous aide à apprendre par expérience ce que c'est que réellement porter sa croix. Et là, nos philosophies tombent droit à l'eau. Je termine par un passage que j'ai lu avec Jean-Louis vendredi dernier, dans Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, les questions d'obéissance, toujours obéi, et travaillé à votre salut, avec crainte et tremblement, voyez, il s'adresse à des chrétiens de Philippe, sincères, qui veulent suivre le Seigneur. Chaque mot a une importance. Non seulement comme ma présence, non seulement le dimanche, mais la semaine, quand on est tout seul, dans son travail, dans sa famille. Non seulement comme ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui travaille en vous pour que vous ayez le vouloir et le faire. J'ai fait exprès pour corriger la traduction en allant sur l'arabe. Parce qu'il écrit, car Dieu crée en vous le vouloir et le faire. La vraie traduction, c'est Dieu travaille en vous pour que vous ayez le vouloir et le faire. C'est-à-dire, c'est dans la communion avec Dieu, dans la prière, etc., qu'il crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Avec vous, tous m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. J'espère que j'ai rempli ma mission dans ma conscience, ce passage, que le Seigneur parle à chacun de nous. Et prenons pas ça à la légère. Que le Seigneur nous aide. Amen.
Amen.